par où commencer? C'est un peu impressionnant de passer après un film comme celui-là. Comme je vous le disais avant la séance, c'est donc le dernier film de Jean-Pierre Melville, et c'est un film qui est à la fois dans le prolongement de ce qu'il a fait juste avant, à partir du deuxième souffle, et notamment où il commence à faire quelque chose qui va devenir un peu sa marque de fabrique. C'est des espèces de longues scènes sans dialogue qui durent 15, 20, 25 minutes, des scènes de casse. À partir donc du deuxième souffle, il y en a aussi une très célèbre dans Le Cercle Rouge, et de manière générale, il y a un rapport à la durée et une manière d'étirer les séquences. Que vous pouvez voir aussi dans la séquence de la clinique, que vous pouvez voir aussi évidemment dans le début, dans la scène de la banque, qui sont des scènes où vraiment il y a un détail des actions, tout est décomposé en temps réel. D'ailleurs, à deux reprises, hein, vous avez des indications temporelles durant la scène du train, hein, où ils expliquent qu'ils ont un créneau de 20 minutes. Si vous regardez votre montre, la scène du 20 minutes, à un moment dans l'hélicoptère, le personnage dit « on a 10 minutes avant d'arriver au village », si vous regardez votre montre, il y a 10 minutes avant qu'on arrive au village, donc tout est vraiment comme ça, extrêmement chronométré. Et en même temps, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, hein, il y en a beaucoup, le film a dérouté, c'est qu'à côté de ce rapport vraiment donné aux actions dans toute leur ampleur, il y a quelque chose de complètement déstructuré, quelque chose de complètement cassé, il y a des ruptures en permanence, de ton, dans le montage. Il y a des ellipses, c'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire qu'il y a, sur un film d'une heure et demie, il y a 20 minutes consacrées à une seule séquence, et à côté de ça, vous avez des débris presque de récits, il y a presque des films dans le film. Je pense notamment à toutes les scènes domestiques avec cet ancien banquier qui a perdu son poste, qui sont des scènes, il y en a comme ça, deux, trois, des scènes qui se jouent vraiment que sur des jeux de port, des jeux de lumière, quand la femme éteint la lumière, quand le mari éteint la lumière, la femme ferme les rideaux, etc. Enfin, que des jeux de cassure. Et de la même, enfin vraiment, si on décompose aussi le récit, hein, c'est pour ça que j'avais un peu des scrupules à vous le résumer au début. C'est concrètement tout ce qui se passe dans le train n'a aucune incidence sur la dramaturgie. C'est-à-dire que le film pourrait se dérouler sans la séquence du train. C'est pas ça qui précipite la chute des personnages. C'est pas quelque chose qui se noue entre eux. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment le flic finit par deviner, probablement par le personnage de Catherine Deneuve, qu'ils sont impliqués dans ce casse. Et donc, c'est un film. Qui peut paraître assez déroutant de cette manière-là, d'autant qu'en plus le film s'appelle Un flic, la question se pose vraiment de savoir si Alain Delon est le personnage principal. Alain Delon qui en plus, là aussi c'est très bizarre parce que ça va un peu lancer la mode des films avec Alain Delon qui joue des policiers, et en même temps c'est un peu, pour ceux qui l'ont vu, il joue un peu presque l'exact inverse que le rôle qu'il tenait dans Le Samouraï. Qui était un personnage comme ça de solitaire, en marge de la société, qui se faisait rattraper par la police. Il y avait déjà cette espèce d'angoisse profonde d'un monde moderne, comme une espèce de prison qui vous rattrape. Je ne sais pas si des gens ont vu Le Samouraï ici, mais notamment toutes les scènes où on le voit essayer d'échapper au contrôle de la police dans le métro, où il y a une cartographie de Paris, et il essaie justement de créer son propre itinéraire là-dedans. Et là, c'est un peu ce que devient le personnage, avec tout ce devenir mécanique du monde moderne, qui se joue, alors je crois vraiment, dès le début du film, dans un espèce de raccord hallucinant. Vous avez d'abord cette vue embrumée, on voit des grues au loin, on voit une mouette, et puis il y a donc ce long plan sur les vagues, qui en fait est prolongé dans un plan suivant, où il y a un débordement sonore, on n'entend que ça, et il y a cette espèce d'étrange travelling sur les immeubles de bord de mer, qui sont légèrement ondulés, qui eux-mêmes reproduisent le geste de la vague. Donc à la fois, il y a une forme de prolongement du geste de la vague et des vagues sur l'architecture urbaine, et en même temps c'est faux. En même temps, c'est un simulacre de vagues. Et je pense que vous l'avez assez nettement remarqué, c'est un film où tout est faux, mais à un degré presque pathologique, puisque même Melville se donne beaucoup, fait beaucoup d'efforts et se donne beaucoup de soins à filmer des scènes par des moyens abracadabrantesques, qui jurent d'autant plus aujourd'hui, notamment la scène du train, où on voit très nettement les maquettes, etc., et où il pourrait tout à fait passer par des ellipses, par des choix de cadrage. Et en fait, ça me semble complètement... Alors c'est entre autres pour ça que le film a un peu une réputation mitigée, et en même temps, ça me semble très étrange de lui reprocher ça, puisque ça me semble complètement intégré dans la mise en scène. Il y a notamment aussi tout ce qu'on appelle les plans en matte painting. Alors vous avez peut-être vu ça dans des films classiques, notamment dans Marnie Hitchcock, par exemple, devant le nightclub, la première fois qu'on voit en profondeur de champ l'Arc de Triomphe, c'est une toile peinte. Et ça se voit de manière très nette. Ce qui peut paraître étonnant, sauf que cette toile peinte, en plus, elle est raccordée sur un tableau dans le Louvre. Et dans le Louvre, donc, il y a des vrais tableaux. Et il y a en plus un nouveau matte painting derrière les personnages, Et il y a comme ça des raccords en permanence entre des personnages et leur double fabriqué. Alors ça, c'est quelque chose que le film travaille, mais alors quasiment chaque scène, quasiment enfin, dans une somme de détails assez parfois très subtils et d'autres parfois qui sont un peu plus visibles.
Pour en revenir ensuite à la question du double, je vais repartir de ce que tu disais juste avant sur le rapport au monde moderne. Parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on peut réinscrire dans la filmographie de Melville. Melville, même si on repart simplement de son patronyme, son nom de cinéaste, il y a deux références et deux héritages qui sont portés par ce nom, à la fois évidemment celui de la littérature américaine et de manière générale de l'Amérique et du roman noir, avec tout ce rapport déjà au monde moderne, un peu désespéré et urbain et le personnage du privé qui, de manière assez étrange ici, se retrouve dans le personnage du policier. Donc il y a déjà une forme d'ambiguïté sur laquelle je pense qu'on reviendra. Et en même temps, évidemment, l'héritage de la résistance, puisque c'était en fait son pseudonyme dans la clandestinité, et que c'est une référence absolument essentielle dans tous ses films. Il en a fait L'Armée des Ombres. Enfin, L'Armée des Ombres, c'est le sujet central du film, la question de la résistance. Et le film ici, en fait, reprend même des éléments structurels de l'Armée des Ombres, à la fois dans les différentes scènes de, par exemple, quand ils vont sauver, quand ils vont tenter de récupérer leur comparse dans la clinique, ou lorsqu'il y a des scènes de dénonciation ou d'assassinat d'un ami à la fin, avec espèce d'ambiguïté qu'il y a dans cette relation, on retrouve des scènes de l'Armée des Ombres, et surtout, le film s'ouvre et se referme sur l'Arc de Triomphe, ce qui était déjà le cas de l'Armée des Ombres. Et je pense que il y a une anecdote d'ailleurs de Melville assez intéressante qui est liée à cet Arc de Triomphe. Il disait en fait que pour lui, il y avait une rupture vraiment dans sa vie, qui était le moment où les Allemands étaient venus sur la place de l'Étoile, qui est une scène qu'il filme précisément dans l'Armée des Ombres en ouverture. Et pour lui, c'était la disparition du vieux Paris et l'avènement de quelque chose de nouveau et d'un monde perdu, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y a cette idée qui est très frappante par les décors aussi, et même un raccord qui est assez amusant. Vers la fin, il y a un raccord entre une maison un peu délabrée et le commissariat, donc un changement complet d'architecture. Et d'ailleurs, la maison en elle-même est dans une sorte de banlieue en train d'être reconstruite. Donc il y a vraiment le changement d'un monde qui est travaillé à partir de ça. Et la question de la résistance, surtout, nous ramène au double, puisque... dans la résistance, il y a deux choses. Il y a à la fois l'idée de clandestinité, d'hommes de la nuit, d'hommes qui travaillent en souterrain. Et d'ailleurs, je pense que pour Melville, finalement, les seuls les personnages qui l'intéressent dans le monde d'après, ce espèce de monde moderne, c'est uniquement des personnages hors la loi, en fait, des espèces de gens qui travaillent dans la nuit et qui sont... amenés à disparaître. Et d'ailleurs, tout le film est en fait une manière de les ravaler petit à petit vers la mort et vers le... et en même temps, dans la résistance, il y a aussi les personnages qui vendent leurs amis, qui trompent, la duplicité, en fait, de manière générale, des hommes. Et c'est l'ambiguïté qui est mise en avant dès le fronton, enfin au fronton du film, et qui revient...
Dans une citation elle-même très ambiguë. Hein,
ouais, et apocryphe
en peine de vous expliquer, hein, parce que cette phrase n'a quand même strictement aucun sens quand on essaie de s'y attarder deux minutes. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, la référence à Vidocq, hein, le personnage de Coleman, qui déjà est à moitié français, à moitié américain, Edward Coleman, rien que dans son patronyme, et qui est entre le privé et Vidocq, qui est donc un peu le flic mythique, et lui-même une figure un peu ambiguë, hein, qui est un ex-forçat, si je ne me trompe pas. Déjà, ça met le film sur des rails, et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est très troublant, hein, notamment parce que le style de Melville se cristallise au moment un peu où il sort du noir et blanc, à partir du deuxième souffle. Le deuxième souffle est dans son film en noir et blanc. Et ce qui est bizarre, c'est que la couleur, au contraire, va rendre ses films encore plus mortuaires. C'est-à-dire que là, le film baigne quand même dans un espèce de bleu-gris complètement délavé, dans un espèce de brouillard mortifère de bout en bout. Il fait des films essentiellement hivernaux, hein. L'Armée des Ombres aussi, c'est un immense film d'automne et d'hiver. Enfin, il n'y a que des tonnes comme ça. Ça se passe en plusieurs années, mais on a l'impression que les saisons ne changent jamais. Et là, il y a quand même cette idée que ce monde est mort précisément parce qu'il est faux. Et là, encore une fois, c'est intéressant parce que le récit se joue vraiment que sur des ruptures très fortes, très brutales. Par exemple, vraiment, le personnage du flic, moi, il est presque dans un champ contre champ qui est suprêmement étrange, et le champ contre champ avec cette prostituée morte, et en fait, qui est doublé, exactement comme le dernier regard au bar est doublé entre le personnage de Coleman et le personnage de Simon. Et ce qui est génial dans cette scène, dans ce redoublement, c'est qu'en fait, on a d'abord en regard caméra la prostituée, puis le personnage de Long, puis de nouveau la prostituée, puis le personnage de Long à nouveau qui a un rictus. Et en fait, il se rend compte au fil de cette scène qu'il pensait regarder une morte, alors qu'en fait, c'est la mort qui le regarde. Et le film joue beaucoup là-dessus. Le film joue beaucoup là-dessus sur des personnages. Bah, d'ailleurs, de Long est plus encore filmé qu'un fantôme, que comme un cadavre, hein, avec son visage très fin, avec cette espèce de désir morbide qui dure tout le long du film. On aura peut-être l'occasion aussi de reparler de ces deux figures féminines très étranges, hein, qui en plus, alors c'est pas indiqué dans le générique, enfin, ou à toute fin du générique, mais en fait elles portent quasiment le même nom, c'est-à-dire que le personnage de Catherine Deneuve s'appelle Cathy, et le personnage qu'on doit dire qui est un personnage transgenre, hein, ce qui est, on se pose la question pendant une partie du film, puis ça finit par être révélé, s'appelle Gabi. Donc voilà, j'ai une forme de proximité assez évidente. De manière générale, voilà, le film va montrer des personnages qui cheminent vers la mort. Et ce qui est très troublant aussi, hein, toute cette ambiguïté aussi vers la fin, sur la question du suicide, sur la réplique finale,
c'est que... Il est décrit comme mort par le personnage de Cathy, qui, oui, lui dit de toute façon, un mort ne peut pas... Je ne sais plus quelle est la phrase exactement, mais elle le décrit comme un mort. Et il apparaît même dans le noir.
Elle le décrit comme un mort et en plus elle jette le pistolet sur le lit. Voilà, et surtout, voilà, encore une fois, on voit dans cette relation avec Catherine Deneuve à quel point tout est strictement faux, hein, puisque la seule fois qu'ils ont un dialogue sincère entre deux, c'est pour discuter du mensonge. Et pour expliquer qu'en fait, le personnage de Simon, c'est depuis le début. Évidemment, il y a toute cette scène où il va dans l'hôtel, il est devant un miroir, et derrière le miroir, il y a encore un miroir, il y a une fausse pièce, enfin, il y a une pièce où le personnage vont jouer. Un espèce de dialogue qui est évidemment une espèce de jeu sadomaso, on le devine. Donc comme ça, tout le film est faux, mais à un degré, mais presque pathologique. Hein. C'est-à-dire dans le train, il y a deux valises, le personnage qui garde les valises a lui-même deux costumes, le contrôleur lui-même a deux costumes, le Simon a toute cette scène invraisemblable, il passe son temps à se repeigner. Ça, c'est ça aussi quelque chose de très curieux dans le film, c'est que le film... notamment dans la scène du train, mobilise un nombre d'éléments complètement abracadabrantesques, mais le traite avec un sérieux absolu de réalisme, de montrer vraiment comment ça se passe, de montrer chaque détail, le savon, la serviette, etc., tout en utilisant des éléments comme l'aimant, hein, qui sont complètement aberrants. Et je pense que c'est quelque chose qui a participé, voilà, au sentiment un peu déstabilisant, hein, que peut produire le film. C'est-à-dire une espèce d'hyper-réalisme, mais en même temps quelque chose qui relève presque par endroit du cartoon.
Oui, je pense que c'est la structure même du film qui est déroutante, en fait, parce ouais. qu'il y a une espèce de deux gros blocs, dont l'un est vraiment minuté et presque ludique dans sa forme. Et puis la scène d'ouverture aussi, qui est une sorte de bloc d'intensité très forte sur des actions qui, d'ailleurs, en elles-mêmes, ne sont pas forcément... c'est essentiellement aller-venir, une action qui est parfaitement réussie. C'est-à-dire que c'est une action qui va à son terme, ce qui est assez rare, évidemment, dans un cas, c'est quand même des péripéties qui inversent la chose. Mais sinon, le reste du film se joue plutôt dans des mouvements inachevés, enfin du côté du policier en tout cas, c'est plutôt l'inverse, c'est des sortes de, il est constamment au téléphone.
Bon, dans la tête du film, il ne fait que répéter la même chose. Hein. D'ailleurs, il répète cette espèce de phrase, oui ou ça, on y va, je vous rappelle plus tard. Je crois que c'est la phrase qui répète vraiment quatre fois le devenir un peu robotique du personnage, qui vraiment explose. Enfin, vraiment, je trouve cette scène un peu sidérante quand tout d'un coup on voit les souterrains et qu'on voit les boutons du téléphone, qu'on voit ces petites masses affairées et qu'en fin de compte on voit vraiment une toile se dégager. Or, ce qui se passe justement, et je pense que Melville est vraiment toujours en fait du côté des voleurs, de même façon qu'en fait il va être du côté du personnage de Gabi, du personnage transgenre quand elle va vraiment être humiliée au commissariat. Ce qui se joue en fin de compte dans cette scène du casse et ce qui se joue dans cette scène du train, c'est une forme vraiment de hijack quelque part de la modernité. Hein, quand ils préparent le plan, ils expliquent justement qu'il s'agit du réseau électrique ferroviaire le plus ancien de France et qu'il y a une fenêtre de tir assez réduite pendant laquelle il va être rénové. Et donc c'est ce moment en fin de compte, on est en train de passer d'un monde à un autre, que les personnages vont justement en profiter pour retourner l'action à leur avantage. Et en fait, la banque, ils jouent la même chose, hein, dans le détail, c'est inventer un ordre à l'intérieur d'un monde froid, robotique, et lui insuffler une espèce de nouvelle logique. Et en cela, il y a une forme de similitude ou de gémilité assez parfaite, hein, entre le personnage de Simon et de Coleman, dont on devine quand même qu'ils sont liés par quelque chose un sentiment qui reste toujours ambigu, hein, mais qui n'est pas interdit de voir comme crypto-gay. Hein. Enfin, je pense que d'ailleurs, le dernier échange de regard avec la figure de Deneuve, moi, ça m'apparaît là seulement en le revoyant. mais c'est que il la regarde une dernière fois, mais il sait qu'il la reverra jamais, puisque leur désir ne s'inscrivait que dans cette relation à trois, et à partir du moment où un des éléments est mort, ça n'a plus aucun sens. Et qu'il y a quelque chose qui passe évidemment sur c'est aussi très bizarre, on se faisait la réflexion sur Delon, hein, qui n'est pas la figure la plus progressiste du cinéma français, qui a quand même accepté un rôle d'une ambivalence, y compris sur sa sexualité, qui est très étonnant pour un film de 71. Enfin en tout cas je trouve toute la scène aussi chez ce vieil homosexuel, où vraiment Alain Delon devient un espèce d'objet, et en plus il triture la statue d'une femme, on voit bien qu'il ne sait pas trop quoi faire de ses mains durant cette scène, c'est assez curieux, et qui est regardé comme un objet de désir, hein, détonne complètement avec l'image qu'on peut se faire de Delon, Delon déjà un peu mutique, Delon déjà un peu mort, hein, c'est quand même Melville qui fait une partie de l'aura et de la stature de Delon, et qui en fait un peu un masque, hein. Un masque mortuaire, c'est pas une figure très pleine de vitalité, Delon, notamment à cette époque du cinéma français. C'est un peu un bloc de virilité, mais c'est aussi un bloc de virilité un peu malade, qui n'est pas du tout une force agissante, une force motrice, une force désirante. Enfin, c'est un drôle de personnage qui, jusqu'au bout, reste un peu malade et qui, lui, est pris dans un système, devient même un peu le visage de l'oppression du monde moderne, et qui, d'une certaine manière, va essayer de trouver un échappatoire à ces personnages qui, eux, vont s'en sortir par la mort, d'une certaine manière. Pour résumer très synthétiquement la structure narrative générale du film.
Oui, je trouve assez émouvant. Tout au long du film, il y a énormément de face-à-face entre les personnages qui passent par le regard et qui sont uniquement des sortes de plans...
qui sont plus des jeux de triangulation, d'une certaine manière.
Il y a des jeux de triangulation, mais il y a aussi des face-à-face et dont la signification est assez trouble. On a l'impression qu'il y a une sorte de qui se regarde en permanence dans les autres personnages, qui l'absorbe quelque chose. Et il y a une sorte d'ange de la mort sur la fin. On avait parlé comme ça. Il y a quelque chose une sorte d'évidement complet du personnage jusqu'à ce qu'il devienne une machine, effectivement. Et en même temps, il y a une symétrie qui est entre sa position de policier et celle des truands, qui joue à son désavantage, mais qui est assez fort dans la première scène, dans sa construction, puisqu'ils s'inscrivent tous les deux dans le même mouvement. Ils sont tous les deux dans des voitures. Enfin, il y a une sorte de raccord entre lui qui est en train de descendre les Champs-Élysées et d'ailleurs les Champs-Élysées. Il y a aussi une symbolique qui est presque mythologique. Il y a une forme de c'est les enfers littéralement. Et la descente des Champs-Élysées, c'est vraiment quelque chose d'évocateur. Mais il y a aussi l'arc de triomphe qui se répète, y compris à l'intérieur même de la scène des truands, puisque la banque dans laquelle ils sont est une sorte de lieux complètement sphériques avec une caisse qui reproduit exactement la structure du...
Oui, puisque
c'est vraiment frappant à la revoyure.
Ouais, c'est vrai que l'Arc de Triomphe, c'est aussi c'est une structure étoilée, hein, c'est le centre un peu du système. Moi, je pense aussi au téléphone, ça m'a fait penser aussi à ça. Mais on parle depuis un moment. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions ? Alors, même négatives, moi, ça m'intéresse parce que je pense que c'est un film vraiment, quand on décortique ce qui pourrait... paraître des défauts ou alors des choses qui est mal vieillie. En fait, je pense que ça s'inscrit complètement dans l'économie de ce que travaille Melville, ce qui fait que le film est extrêmement radical sur certains points. Il y en a un que j'ai pas évoqué, mais justement, je profite peut-être d'une petite pause ou de questions pour...
Non, c'est juste que j'ai relevé une qualité étrange du film qui est liée à ses face-à-face et à ses plans triangulaires de regard. On regarde beaucoup leurs yeux et j'ai l'impression que tous les acteurs ont les yeux clairs.
Oui.
Ça m'a vraiment troublé au bout d'un moment. Les deux ennemis ont les yeux bleus, on se fixe sur leur regard bleu, mais il y a aussi Costa qui a les yeux verts dans le commissariat, même de neuf. Voilà, c'est une qualité troublante dont je ne sais pas trop quoi faire, à part que c'est les couleurs aussi du film. Donc c'est assez... Mais ouais, c'est très curieux. Enfin, regarder autant les yeux, les couleurs des yeux dans un film.
C'est marrant parce que la dernière fois que je m'étais fait la réflexion, c'était devant un western d'Aldrich, dont j'ai oublié le nom, avec Burt Lancaster. Et pareil, en fait, il y a un peu un chevalier blanc, un chevalier noir, et en fait, ils se reconnaissent tout de suite parce qu'ils ont tous les deux les yeux bleus. Et que c'est le point commun qui va les lier. Et c'est vrai qu'il y a une logique un peu de western sur ce point. Ce qui nous amène d'ailleurs peut-être à parler d'une certaine de la place très étrange de Melville dans le cinéma français. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de suprêmement étrange dans le film. C'est que la moitié du casting n'est pas français. Il y a presque un jeu, je vous disais, sur la question de la facticité. Vous l'avez peut-être remarqué, la moitié des acteurs sont post-synchronisés. Et même ça va à un point de délire, c'est-à-dire que sur les quatre truands, il y en a un seul qui est français, il meurt au début du film, c'est le personnage qui reçoit une balle. Et les autres, alors il y a deux acteurs américains, il y a Richard Crenna, si je ne me trompe pas, qui joue dans Rambo. Le personnage de Costa est aussi un personnage américain, un acteur américain. Et puis, il y a l'acteur qui joue le banquier est un acteur italien. Et ils sont tous post-synchronisés, ce qui se voit. Et même quand on regarde la scène du musée, c'est la scène où ça se voit le plus. C'est-à-dire, c'est un lieu du faux, il y a un matte painting à l'arrière, et les trois personnages parlent dans des langues un peu différentes et sont doublés en français. Ce qui paraît très étrange, mais ça, c'est des choix de casting. Peut-être qu'ils ont été choisis justement pour la couleur de leurs yeux. Mais aussi parce que Melville, alors on l'a dit, Melville... cultive une espèce de persona entre la France et les États-Unis. C'est bizarre parce que c'est un cinéaste à ses débuts qui a été un peu, parce qu'il a fait des films un peu hors circuit. Il voulait pas, par exemple, il explique qu'il a un film, il a acheté de la pellicule au marché noir parce qu'il voulait pas faire partie du syndicat de réalisateurs. Enfin voilà, il voulait pas trop s'inscrire dans un système. Il avait ses propres studios, il voulait produire ses propres films, à un point par moment presque un peu de délire. Mais au début, du coup, pour toutes ces raisons, pour ses indépendances et pour les conditions un peu sauvages de tournage, il a été considéré comme un espèce de père pour la nouvelle vague. Et d'ailleurs, Godard le fait jouer dans ses premiers films, il joue aussi dans le film du Lion de Romer. Ça change un peu, notamment il n'est pas très apprécié de la nouvelle génération des cahiers à partir de l'Armée des Ombres, parce qu'il fait un film sur la résistance et sur De Gaulle juste après mai 68, ce qui passe absolument pas dans le contexte politique de l'époque, surtout que De Gaulle apparaît dans le film dans une scène incroyable mais qui est un peu décriée au moment de la sortie du film. Mais en fin de compte, c'est un cinéaste qu'on peut raccrocher un peu qu'un autre hein, dans le cinéma français. Il y a des cinéastes Il y a John Woo qui va se revendiquer de Melville. Il y a des cinéastes asiatiques qui vont se revendiquer de Melville. Mais en fin de compte, le seul cinéaste français qui me fait un peu penser à Melville dans son ambition et dans son mode de travail un peu unique, c'est Tati, qui lui aussi avait une volonté de faire un cinéma à la fois très ambitieux, parfois presque complètement muet, d'avoir son propre studio, d'avoir quelque part un peu son propre territoire de cinéma. Avec aussi quelque chose un peu de démiurgique hein, dans le geste de cinéma qu'il a, et encore une fois s'incarne de manière très curieuse puisque c'est à la fois le film le plus resserré de Melville et en même temps celui le plus détraqué par endroits. Par exemple, moi je me suis posé la question sur comment aujourd'hui serait reçu le film sur ce personnage transgenre. Alors on en parlait justement avec Sien parce que c'est très ambigu, parce qu'à la fois c'est un élément récurrent du film noir, le personnage entre guillemets du travesti, sauf que déjà Melville fait un choix, alors qui aujourd'hui évidemment, faut savoir que le film a quand même 50 ans, hein, serait plus le même, c'est à savoir qu'il ne fait évidemment pas jouer le personnage par un acteur transgenre pour la simple et bonne raison qu'il n'en existe pas à l'époque, mais il fait quand même un choix qui est complètement à rebours du cinéma noir de l'époque, c'est qu'il le fait jouer par une femme. Ce qui généralement est l'inverse, c'est-à-dire quand on voit un personnage travesti généralement dans un film noir, il y a quelque chose d'un peu outrancier, d'un peu cabaret, ce qui là n'est pas du tout le cas. Et surtout, ce qui est très beau, je trouve, dans le film, c'est une espèce de dissension complète entre le regard de Melville et le regard de Coleman, qui lui-même est ambigu, hein. On sent bien qu'il a un désir. C'est-à-dire que ce que nous montre le film de manière très nette dans le montage, hein, notamment, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un très étrange mouvement de caméra quand il retrouve le personnage de Gabi, qui démarre, on devine qu'on est un peu dans les environs du printemps, des galeries Lafayette, et il y a un plan qui part de mannequin, qui descend, et là il la retrouve dans une voiture, et ce que nous dit très clairement le plan, c'est qu'à ses yeux, ce n'est pas une vraie femme, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il la désire. Mais Melville ne le regarde pas comme ça, et d'ailleurs, c'est assez beau la manière dont la scène... entre les deux se disputent, ou au début il y a ces espèces de regards masculins. Ça c'est aussi quelque chose de très étrange. C'est qu'on voit le personnage de Coleman un peu en marge des regards masculins qui s'organisent autour de lui. Je pense aussi à la scène où il va chez ce vieil homosexuel, où on voit très bien que son partenaire regarde tout ça avec un certain dédain et un certain mépris, alors que lui est un peu plus ambigu. Et là c'est la même chose, la manière dont la caméra raccompagne, moi je trouve ça assez beau. Et c'est tous ces à côté en fait qui font aussi que Melville est un cinéaste un peu atypique et un peu, c'est-à-dire qu'il fait des choses à des moments où les autres le feraient pas. Je pense aussi, je me faisais la réflexion sur la scène du train qui est assourdissante, où vraiment on voit l'hélicoptère, on voit le corps descendre, etc. Et on pourrait se dire que tout d'un coup il y a une rupture sonore évidente qu'aurait fait, je pense, 9 cinéastes sur 10 quand ils rentrent dans le wagon. Et Melville fait un truc, il fait pas du tout ça. Il attend en fait que le personnage rentre dans les toilettes pour faire une double rupture, une rupture sonore quand la porte se referme, et une rupture chromatique puisque tout d'un coup on passe d'un espace noir, embrumé, etc., à un espace complètement blanc. Et c'est dans ces petits détails-là aussi, c'est quand est-ce qu'il coupe, quand est-ce qu'il va changer de vitesse, quand est-ce qu'il va opérer des ruptures, que je trouve le film vraiment à la fois très étonnant et très beau, avec des espèces de petits miracles plastiques, par exemple dans la scène d'ouverture, quand la voiture disparaît dans le brouillard, tout ce qui se joue aussi de très étrange dans les gestes, dans le simulacre du train, le premier train, où il passe par une comédie en fin de compte très complexe, quand il y a la même façon quand ils enterrent l'argent alors qu'il y a un personnage qui est en train d'agoniser juste à côté. Tout ça se joue dans des jeux de raccords, de déplacement de caméra. La mise en scène ne fait que relier des éléments disparates les uns aux autres pour créer comme ça une forme d'organicité. Alors moi, je trouve le film complètement exaltant, complètement organique. Je sais que pour d'autres, c'est froid, désaffecté, hyper brutal, voilà. Donc, je vais à la pêche aux avis. Toujours pas. Ah, il y en a un.
Tu as parlé de Tati tout à l'heure, mais en fait, quand j'y pense, c'est un peu ces deux cinéastes maquettistes. Quoi. Et quand tu disais qu'on pouvait prendre le film de manière un peu froide, moi, quand je vois la scène du train et cette espèce de petit hélicoptère en plastique avec les fils, et on voit que les arbres à côté ne bougent pas, cette espèce de petite reconstitution comme des dioramas. J'ai trouvé ça assez ludique. Quoi. Même la séquence de braquage, j'avais l'impression que c'était un enfant qui jouait avec des petits soldats, des pions qu'on déplace, donc c'est très chorégraphié. Il n'y a pas de monde extérieur, à part les personnages centrales. On filme peu la foule ou toute la circulation. Je sais pas quoi faire de ça, mais disons que ça m'a paru plus léger que ça n'en a l'air. Je peux comprendre que ce soit un peu rêche, quoi. Mais j'avais l'impression de voir un enfant qui jouait avec ses figurines un petit peu, surtout dans la séquence un peu avec le map painting et tout ça. C'était assez frappant de voir cette espèce de maquette, quoi, en mouvement.
C'est un peu étonnant parce que quand on compare par exemple à la scène de la banque, en fait, c'est quand même un peu un tour de force même météorologique. Ce qui se joue sur la pluie, ce qui se joue sur... Encore une fois, il y a des détails extrêmement incongrus. Les lumières, le raccord entre les lumières qui s'allument, les espèces d'arbres à cloche dans les Champs-Élysées. Il y a aussi le personnage en train d'aller vers une banque pour la cambrioler. Il regarde autour de lui, il voit les lumières et puis il voit une mouette. Encore une fois, l'alliance de deux mondes qui seraient presque étanches entre la nature et tout d'un coup cette espèce de monde mécanique déjà. Et en même temps, quand on compare aux autres Melville, notamment l'Armée des Ombres, où il y a aussi une scène... alors qui n'est pas une scène de casse, mais qui est une scène d'évasion dans une préfecture au début du film, qui est une scène, elle aussi, extrêmement chorégraphiée, où là aussi, il y a une espèce de longue course-poursuite, ou plutôt une longue échappée dans la rue, ou le deuxième souffle aussi. Tout ça, en fin de compte, là, pour le coup, c'est des scènes qui sont dans des décors extrêmement larges. Le casse du cercle rouge aussi, c'est un peu un tour de force où on ne voit pas du tout les coutures, on ne voit pas du tout les effets spéciaux. C'est vrai que c'est là une des particularités du film. C'est que Melville, qui est un cinéaste qui seulement a des moyens et qui a besoin de moyens pour développer vraiment sa vision, là, passe par des effets de simulacre qui, encore une fois, sont complètement intégrés à la logique interne de son film. Mais si on les prend en premier degré, on se dit, mais pourquoi faire des trucages aussi visibles, voire même un peu dépassés, alors que 5 ou 10 ans avant, il faisait la même chose avec des moyens complètement différents. Ça me fait un peu penser, parce que c'est aussi un film qui est décrié pour ces raisons, à ce que fait Hitchcock dans ses derniers films, et notamment Marnie, qui a été beaucoup décrié là-dessus, sur les grands plans de matte painting, sur l'usage de ses couleurs, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une même volonté aussi de jouer sur tous les éléments du cinéma, y compris presque un côté presque méta, c'est-à-dire sur la facticité des éléments, pour l'intégrer à une logique de mise en scène. Ce qui fait que le film peut être déroutant. C'est la même chose pour la post-synchronisation. Pour moi, je pense qu'il y a une esthétique de la post-synchronisation qui s'inscrit dans le film. C'est-à-dire que ce n'est pas un à côté, ce n'est pas un défaut technique. Ça fait partie, quelque part, de ce que le film raconte. C'est-à-dire que ces personnages ne parlent pas la même langue, littéralement. Ces personnages ont quelque chose qui les distingue du monde dans lequel ils sont. Mais encore une fois, quand on voit ça de premier degré, je comprends. Alors lui, il s'est lamenté que le film n'a pas marché. Le film fait quand même 1,4 million d'entrées, ce qui, pour vous dire, à l'époque, est un échec. Ça a quand même bien changé. Mais en même temps, je m'étonne qu'il ait été aussi affecté par cet échec, parce que le film est un peu suicidaire sur ces éléments-là. Je pense que c'est un film qui ne pouvait pas être apprécié comme grand divertissement populaire, vu ce qu'il essayait en fait, d'entreprendre, qui est quand même d'une bizarrerie, d'une radicalité absolue. Ce qui fait que pour moi, c'est un film aussi complètement unique dans l'histoire du cinéma français, que je l'aime autant. Mais ce n'est pas un film de prime abord évident, parce qu'il repose précisément sur des éléments d'une telle étrangeté, d'une telle bizarrerie, et pas du tout sur une efficacité narrative, sur des moments... Il a presque une volonté par sa vision, parce qu'il essaie de faire, presque de saboter quelque part, d'un point de vue de spectaculaire, les grands moments de bravoure. Ce qui en fait un film très bizarre. Alors je crois que j'ai eu on peut peut-être prendre... une dernière question, si jamais il y en a une, mais après il va falloir couper court, puisque j'ai le projectionniste qui m'a fait des signes. Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'en profite quand même pour vous annoncer la prochaine séance du Ciné Club qui sera un peu particulière, puisqu'on va faire une séance qu'on prépare depuis de nombreux mois sur le cinéaste expérimental Jacques Perconte. Donc, ce ne sera pas du tout la même chose. Qui sera là. Et on parlera de trois films, dont deux films qui sont absolument incroyables, alors qui ne sortent pas en salle, puisque c'est un cinéaste dont les films ne sortent pas en salle. Trois courts-métrages, dont deux là qui ont été faits cette année, qui sont parmi les plus beaux films que vous verrez cette année. Donc il y aura un court-métrage qui est déjà sorti il y a un an et demi qui s'appelle Avant l'effondrement du Mont-Blanc, et il y aura donc deux inédits, Sil Silence et une adaptation en 35 minutes de Salammbô de Flaubert qui a tombé par terre, et surtout pour ceux qui ont lu le livre de Flaubert, vous pouvez deviner à quel point c'est incongru d'imaginer un cinéaste expérimental faire un film à partir de ce livre-là. Voilà, donc on aura l'occasion d'en discuter, il sera là, et voilà, c'est une occasion un peu unique de voir ces films sur grand écran, donc on vous invite chaleureusement à être là le mois prochain. Ce sera, si je ne me trompe pas, le 26 avril. En tout cas, c'est comme d'habitude le dernier jeudi du mois. Merci beaucoup.
Merci.